Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le journal de Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous. À la une ce matin, le Louvre qui respire, même masqué. Très peu de touristes étrangers en raison de la crise sanitaire, eux qui représentent habituellement 70% de la fréquentation. Conséquence, il y a de l'espace en ce moment pour profiter des œuvres. Alors que le coronavirus repart en Catalogne espagnole, la question de la fermeture de la frontière avec la partie française se pose. Les maires des communes transfrontalières sont partagés. Dans ce journal encore, l'hommage à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, 4 ans après l'assassinat du père Hamel. L'Estonie, petit pays super connecté, veut attirer des travailleurs étrangers. Et puis oui, les JO de Paris auront bien lieu dans 4 ans, promesse du patron Tony Estanguet.
Dans 20 minutes, le premier invité de la matinale, Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, ancien de La République En Marche, sur les annonces de Jean Castex hier autour de la sécurité.
France Inter.
Sans les touristes étrangers et avec les règles sanitaires, le musée le plus visité au monde sonne presque creux.
Le musée du Louvre accueille d'ordinaire 70% de touristes étrangers, sauf que le coronavirus en a décidé autrement pour cette saison en tout cas. Alors si depuis la réouverture le 6 juillet dernier, la direction fait grise mine face aux pertes considérables que ça représente, les visiteurs estivaux, eux, ont la chance, malgré le masque et le protocole sanitaire, de pouvoir profiter d'un Louvre sans trop de monde. Reportage Louis de Bergevin.
C'est un petit tableau qui à lui seul fait déplacer les foules d'habitude, mais qui a moins d'admirateurs en ce moment.
Généralement, il y a énormément d'attroupements autour de la Joconde et que là, c'est vraiment pas le cas.
Adrien en profite pour rester un peu plus longtemps devant le chef-d'œuvre. Il y a une belle file d'attente quand même, mais elle n'est pas très dense.
C'est cool même pouvoir s'arrêter devant les œuvres sans être entouré de beaucoup de monde, c'est sympa. Ouais.
Et les visiteurs aujourd'hui en profitent. Ils sont 10 000 par jour en moyenne au Louvre. Ils étaient plus du double l'an dernier à la même période. Pierre-Yves est venu montrer la Joconde à ses filles.
La directrice du musée d'Orsay nous a dit que c'était un excellent moment pour venir, donc effectivement ça nous a un peu incité. On va faire les musts du tourisme là, on les aurait sans doute pas fait autrement, en tout cas pas l'été.
Ah, il y a aussi les habitués du musée, comme Christiane et Marie-Josée, elles seraient venues de toute façon, mais là c'est encore mieux.
On peut s'arrêter devant une œuvre et puis la déguster. Voilà.
Devant la Vénus de Milo, Michel a eu le temps de s'arrêter, de rêver, mais il rêve surtout que cette situation perdure.
Il y a déjà pas mal de monde, moi, je trouve. Hein. Ça suffit, voilà, pas plus. Si on veut personne, on va voir les vases grecs. Il n'y a jamais personne. Les gens, ils comprennent pas bien pourquoi.
En attendant la fin de la crise sanitaire et le retour des touristes étrangers, les visiteurs du Louvre doivent réserver avant de venir et bien sûr garder leur masque devant les œuvres.
Louis de Bergevin, des aveux dans l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes. Le principal suspect, un bénévole du diocèse arrêté la semaine dernière puis relâché, a été de nouveau placé en garde à vue hier. Il a reconnu dans la nuit être l'auteur des 3 départs de feu relevés par les enquêteurs. Il a été mis en examen et placé en détention. Il est poursuivi pour dégradation, détérioration ou destruction du bien d'autrui par incendie, des faits passibles de 10 ans de prison.
Faut-il fermer la frontière entre les Catalognes françaises et espagnoles ?
Question posée à l'heure où la région de Barcelone connaît une recrudescence du nombre de cas de coronavirus. Pas de reconfinement obligatoire, mais les habitants sont fortement incités à rester chez eux. Les discothèques et les bars de nuit ont été de nouveau fermés sur ordre du gouvernement catalan. Côté français, le Premier ministre Jean Castex a vendredi conseillé aux touristes d'éviter de se rendre en Catalogne espagnole. Alors, la fermeture de la frontière, qu'en pensent les maires des communes limitrophes de la Catalogne du Sud, côté français cette fois. Reportage France Bleu Roussillon, signé Nina Valette.
Quand on demande à Georges Armengol, le maire de Sayagouz, s'il faut fermer la frontière, eh bien, il botte en touche.
Aujourd'hui, je ne sais pas. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous dire quelle est la bonne décision, dites-moi-le parce qu'il faudra qu'il l'argumente.
En Catalogne, nord comme sud, passer de l'autre côté de la frontière, ça fait forcément partie du quotidien. Alors, pour la maire d'Amélie Lesbains, Marie Costa, il ne faut pas de fermeture.
Écoutez, moi, je travaille nord-sud sans arrêt. Hein. Bon, personnellement, je continue à passer la frontière tout à fait normalement. Je pense que la fermeture des frontières, c'est quelque chose qui tourne le dos à la réalité et à l'histoire.
Plus mesuré, du côté de Bourmadam, madame, Danielle Armisen aurait quand même l'impression que l'on ampute sa commune.
Bon, madame a toujours vécu avec la frontière. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai que si elle était fermée, ça serait quand même très très compliqué, sachant que bien évidemment la situation évolue, je dirais quasiment d'heure en heure. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ce que je dis à l'instant ne sera peut-être plus valable du tout demain. Voilà, on voit bien que là on est sur une ligne de crête très très étroite.
Les maires des Pyrénées-Orientales ont toute confiance en Jean Castex pour gérer le sujet, puisque son ancienne commune de Prades est à moins d'une heure de l'Espagne.
Eux réclament tout autre chose ce matin dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. 18 maires de droite, dont ceux de Nice, Reims ou encore Metz, veulent plus de pouvoir pour leur police municipale. Ils souhaitent notamment que les policiers municipaux puissent mener des contrôles d'identité et qu'ils aient un accès total à certains fichiers, comme ceux des permis de conduire ou des fichiers S. Une tribune à l'initiative du maire de Nice, Christian Estrosi, alors que le Premier ministre Jean Castex était dans sa ville hier pour parler sécurité. Le chef du gouvernement qui a annoncé l'expérimentation à venir à Nice d'un élargissement des compétences de la police municipale dans un cadre fixé par les ministres Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs qui est à nouveau en déplacement aujourd'hui. Gérald Darmanin sera à Saint-Étienne-du-Rouvray ce matin près de Rouen, 4 ans jour pour jour après l'assassinat du père Jacques Hamel égorgé dans son église. Attentat revendiqué à l'époque par l'organisation terroriste État islamique. Les deux auteurs avaient été abattus par la police sur le parvis de l'église. L'hommage au père Hamel commencera à 10h par une marche silencieuse. Et pour l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, la présence du ministre de l'Intérieur est un signe fort dans ce lieu d'espérance, dit-il, qu'est l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Cet assassinat, c'est le symbole de la haine, mais de la haine qui n'a pas engendré la haine, qui a engendré, au contraire, le désir de discerner, de regarder nos proches d'une autre manière, d'aller peut-être jusqu'au pardon, au fond d'être fidèle à la vie et au ministère du père Jacques Hamel, pour qui le plus important c'était d'aimer et d'aimer tout le monde en étant au milieu de tous. Le père Jacques Hamel est un symbole multiple. Pour les prêtres, c'est le symbole d'un prêtre fidèle, humble. Pour ceux qui sont engagés dans le dialogue interreligieux, c'est le symbole d'un espoir, d'une persévérance dans ce dialogue interreligieux. Pour l'État, c'est aussi peut-être la redécouverte de la place sociale des religions et qui ne sont pas des dangers pour la République, mais au contraire des parties prenantes du vivre ensemble.
L'archevêque de Rouen qui répondait à Anne Bertrand.
Un service public dématérialisé, gestion d'entreprise à distance, bienvenue en Estonie.
Ce petit État balte d'un peu plus d'un million d'habitants, membres de l'Union européenne, a créé il y a quelques mois un visa digital pour attirer les étrangers qui voudraient profiter d'un pays ultra connecté. En Estonie, par exemple, toutes les démarches, sauf le mariage, peuvent se faire en ligne. Zoé Pallier.
Avec le visa digital, l'Estonie espère accueillir près de 2000 nouveaux travailleurs par an. Des entrepreneurs dits nomades, dont la plupart travaillent dans l'informatique. Julien est déjà ce qu'on appelle un e-résident estonien. Il a quitté la France qui refusait de reconnaître une adresse mobile pour le siège social de son entreprise.
Ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'être créatif, de voyager, de créer des réseaux à l'international, c'est assez incompatible avec le modèle traditionnel de l'entreprise. Le statut de e-résident en Estonie permet d'accéder à tous leurs services d'État numérique de manière très pratique. Il m'a fallu un mois pour obtenir ma carte d'e-résident, ouvrir mon entreprise, etc.
Signer des contrats, commander des médicaments ou déclarer une naissance, tout cela se fait en ligne. Catherine Vaga est chef de communication internationale du programme e-résidence.
Cela va diversifier notre économie. Nous aimerions attirer des professionnels hautement qualifiés qui voudront rester en Estonie, qui utiliseront nos services et consommeront ici. Ils pourront ainsi se familiariser avec la vie dans une société digitale où 99% des services sont dématérialisés.
Des efforts pour gagner en attractivité qui visent aussi à compenser une démographie déclinante et l'émigration massive des jeunes générations.
Zoé Pallier, nous sommes le 26 juillet et dans 4 ans, jour pour jour, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris doivent s'ouvrir. Mais alors que ceux de Tokyo, qui étaient censés se dérouler en ce moment même, sont décalés d'un an et que le CIO envisage désormais des jeux réduits, le calendrier de Paris 2024 peut-il à son tour être bouleversé? Non, répond le président de l'organisation Tony Estanguet.
Ça n'a pas d'impact pour nous puisqu'on a notre propre calendrier depuis Lima 2017. On avance sereinement sur notre calendrier pour être prêt le 26 juillet 2024. Tous les grands chantiers ont déjà été lancés. Nous, on avance indépendamment de ce qui se passe à Tokyo. Donc on n'est pas impacté par le report des Jeux de Tokyo d'un an. Je peux vous confirmer effectivement que les Jeux de Paris 2024 auront bien lieu en 2024.
Tony Estanguet au micro de Jérémy Janin-Gros. Enfin, il a cofondé le mythique groupe de rock britannique Fleetwood Mac. Le guitariste Peter Green est mort hier. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Peter Green qui avait 73 ans, il avait quitté le groupe 3 ans après le début de l'aventure en 1970 et nous venons d'entendre un extrait du titre Oh Well sorti en 1969.
Oh Well, c'était le journal de Kevin Dufraîche, du journal papier à la météo déchaînée, on y va.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Jean-Michel Golinski, il y a du soleil sur les régions méridionales.
Et de la chaleur.
Oui, oui.
Avec 30 à 35 degrés prévus cet après-midi, alors 30 près de la Garonne et sur la Corse, 31 sur le Dauphiné, 33 autour de la Méditerranée en général, jusqu'à 35 degrés en basse vallée du Rhône. Plus haut dans le quadrilatère, Gironde, Val-de-Saône, frontière luxembourgeoise, Poitou-Charentes, temps chargé ce matin, avec par moments des pluies faibles, mais avec une belle embellie à prévoir en cours de journée par l'océan. Il fera 27 à Bordeaux, Strasbourg, Cognac, Bourges et Nevers. Enfin, plus au nord, alternance de nuages et de soleil avec de rares ondées possibles dans des températures de 18 à 22 degrés sur le Finistère et près de la Manche où le vent de sud-ouest sera sensible. Il fera 23 à Rennes et Lille et 25 à 26 degrés du côté de Tours, de Reims et de Paris.